En Marge, une émission qui met en lumière des livres trop peu connus.
Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes mais abondants sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez, et leurs poils, tant ils étaient longs et touffus, donnaient l'impression de bouclés. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache, avait une expression cruelle, et les dents, éclatantes de blancheur, étaient particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres, dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles, et vers le haut se terminaient en pointe. Le menton, large, annonçait lui aussi de la force. Et les joues, quoique creuses, étaient fermes. Une pâleur étonnante, voilà l'impression que laissait ce visage. J'avais bien remarqué, certes, le dos de ses mains qu'il tenait croisées sur ses genoux. Et, à la clarté du feu, elle m'avait paru plutôt blanche et fine. Mais maintenant, que je les voyais de plus près, je constatais au contraire qu'elles étaient grossières, larges, avec des doigts courts et gros. Aussi étrange que cela puisse sembler, le milieu des pommes était recouvert de poils. Toutefois, les ongles étaient longs et fins, taillés en pointe.
Donc avec cette lecture que nous a offert Marianne, vous avez sûrement reconnu cette figure emblématique du comte Dracula. Donc l'aristocrate terrifiant aux dents longues, au teint blafard et assoiffé de sang. Seulement, nous n'avons pas traité du roman de Bram Stoker aujourd'hui, car on pense que vous connaissez déjà assez ce roman. Mais on va s'attaquer à une œuvre qui est pour le coup peu connue, mais qui traite également du fameux mythe du vampire, donc un mythe revisité et actualisé par l'autrice Poppy Zedbright, dans sa première œuvre, Âme perdue ou Lost Soul, dans sa version originale, qui est sortie en 1992 aux États-Unis. Donc c'est un roman qui s'inscrit dans le mouvement gothique des années 80-90, qui émerge peu à peu aux États-Unis, avec ces gens en marge, fascinés par le macabre, la mort ou le fantastique, où les lois sont bafouées, la morale rognée par les vampires, donc des créatures éternellement jeunes, des monstres séduisants qui sèment la terreur dans la Nouvelle-Orléans. C'est un roman à plusieurs voix qui retrace quatre parcours, celui de l'adolescent orphelin Nothing, du vieux vampire Christian, des musiciens Ghost et Steve, et des trois vampires, Twig, Moloshai et Zilla, dont les chemins vont se croiser.
Donc l'histoire commence dans un bar, dans le vieux carré de la Nouvelle-Orléans, qui est un quartier assez festif, donc avec des bars, clubs de jazz, etc. C'est un bar qui est tenu par Christian, donc lui-même un vampire sous couverture, un adulte qui semble un peu blasé, mélancolique, d'une époque qui n'existe plus. Par ailleurs, on fait la rencontre de Jessie, une jeune ado qui fréquente souvent le bar avec l'espoir de rencontrer des vampires. Les fameux Twig, Moloshai et Zilla, des créatures de la nuit destinées à vivre éternellement jeunes, insouciants et qui dégagent une cruauté aussi grande que leur beauté. Zilla séduit donc la jeune Jessie, qui va tomber enceinte après cette liaison, et qui va rester avec Christian. Seulement, son accouchement vire au drame, car elle y perd la vie en donnant naissance à un bébé vampire qui consomme sa chair. Super. Christian va laisser cet enfant à une famille bourgeoise en ne laissant que peu d'indices sur ses origines, excepté un message. Il s'appelle Nothing, prenez soin de lui et il vous apportera la chance. Mais à ses 15 ans, dans ce qu'il semble être une crise d'adolescence, Nothing décide de s'enfuir pour rejoindre son groupe de musique favori, nommé les Lost Souls, dont la musique résonne profondément en lui et où il voit l'occasion de trouver des réponses sur ses mystérieuses origines. Lors de son road trip, sa véritable nature se manifeste, petit à petit, jusqu'à sa rencontre avec le trio de vampires qui semble avoir la clé de son existence. Donc c'est un roman qui s'intègre dans un mouvement de protestation contre la société américaine conformiste par l'emprunt de la culture gothique.
Donc effectivement, on parle justement de la culture gothique depuis tout à l'heure, mais par exemple, on se posait la question de nos affinités avec cette culture, si on n'avait pas pas mal de préjugés justement sur la culture gothique. Donc par exemple, Marianne, avant de lire le livre, qu'est-ce que tu connaissais du gothique ?
Le gothique, comme la plupart des personnes, je pense aux références littéraires comme Edgar Allan Poe, notamment. Et selon moi, le gothique, c'est un mouvement assez sombre, assez... je pense que j'aurais une définition trop vulgarisée de ce que c'est. Peut-être que tu peux nous éclairer.
Oui, c'est vrai que moi aussi, je connaissais très très peu le gothique. Enfin, par exemple, l'architecture gothique qu'on voit dans certaines cathédrales. La littérature, bah, comme tu as dit, Edgar Allan Poe, tout ça, c'est des poèmes qui s'inscrivent dans le gothique, etc. Après, on peut connaître un petit peu le genre musical sans vraiment l'écouter. On peut imaginer ce que c'est, par exemple, des tons assez mélancoliques qui parlent de la mort, etc. Mais je pense qu'on connaît surtout le style vestimentaire.
Oui.
Peut-être croiser des gens avec ce style. Mais c'est vrai qu'on peut... avoir beaucoup de préjugés là-dessus, par exemple bah, des jeunes fascinés par la mort qui traînent dans des cimetières. Mais en fait, on voit dans ce mouvement déjà que la mort, ce n'est pas vraiment une finalité. Enfin, en tout cas, c'est pas des jeunes qui désirent de mourir spécialement, mais qui perçoivent en fait plutôt une sorte de vulnérabilité dans leur mortalité et qui veulent justement outrepasser la peur de la mort. Et aussi la peur du macabre par son acceptation. Donc ici, la mort n'est pas une fin, mais le commencement vers une nouvelle réalité, donc le monde de la nuit, du surnaturel, donc un monde qui se poursuit après la mort, mais qui manifeste aussi une mélancolie comme on le voit dans les musiques. Ce qu'on met en scène généralement dans la littérature gothique, comme tu l'as dit, c'est souvent des revenants, des vampires qui vivent éternellement, mais sous une autre forme. On parle même des vampires qui sont des gens qui ne vivent pas, qui ne respirent pas, etc., dans plusieurs légendes. Et c'est vrai que ce mythe du vampire, il est revisité ici dans ce livre de Âme perdue de Poppy Zebright. Et on voit en fait la formation d'un nouvel idéal qui va à l'encontre des carcans. Donc la beauté par exemple dans l'horreur. Donc on peut prendre par exemple Une charogne qui est peut-être le poème le plus connu de Baudelaire. Où Baudelaire, poète du 19e siècle, qui est un petit peu précurseur de ce mouvement gothique, parle justement de paradis artificiel qu'on peut lier avec cette jeunesse décadente de vampires qui veulent vivre éternellement et qui cherchent justement la violence, la quête du sang, etc., pour vivre éternellement et pour accéder à des dimensions peut-être plus hautes. Comme sous-entend les paradis artificiels. Donc ici, dans le roman, ça sera plutôt la quête de la sexualité, la drogue, la violence. Car ce sont des gens qui cherchent justement les excès, car ils ne se reconnaissent plus dans la société américaine, qui est plutôt très conformiste, protestante, pudique, surtout dans les années 80. Donc il y a une sorte de prise de conscience et même une critique de cet état d'ébriété permanente quand même dans le livre, de ces extrêmes, car en fait la société a rendu ces jeunes gens extrêmes et en marge de ces sociétés. Ça met en scène en soi un ado qui est incompris, comme tu l'as dit dans ton résumé, même si certains personnages gagnent en maturité. Donc la culture gothique qui est extrêmement mise en avant dans le livre, en fait, elle présente aussi l'affirmation d'une identité, mais aussi l'affirmation d'une volonté d'exister, et on le voit aussi sur beaucoup de références de pop culture des années 80.
Ça serait donc une fascination aussi.
Oui, une fascination. Une fascination. Parce que on a vu qu'il y a beaucoup d'intertextualité dans le livre, donc avec les références d'Algar Allan Poe, Le Corbeau, Dracula de Bram Stoker, ou même des références à la musique gothique.
C'est peut-être pour donner plusieurs aspects de ce qu'est le gothique aussi.
Oui, tout à fait.
Cette intertextualité-là, elle montre différentes dimensions, différentes approches aussi de ce qu'est le gothique.
Oui, parce que ça existait à différentes époques. Ça existait, par exemple, dans les mythes médiévales, avec l'apparition du vampire qui a peur de l'ail, où il faut planter un pieu dans le cœur.
Des espèces de stéréotypes qui persistent avec le temps.
Tout à fait. Mais ici, la culture gothique qui est mise en avant, c'est pas vraiment ces vampires extrêmement clichés du Moyen-Âge qui sont terrifiants. Justement, c'est des gens qui sont séduisants.
Vampires modernes.
Voilà. Parce qu'il y a eu énormément d'influences dans les années 70 avec, par exemple, David Bowie qui est une figure androgyne, un être parfait qui représente le glam rock des années 70. Donc, ce qui a influencé quand même... l'apparence de ces gens qui androgynes, qui s'apprêtent, qui se maquillent, qui ont des tenues extravagantes, etc. Donc on voit en fait une sorte de nouvel idéal d'une beauté presque parfaite avec ces vampires jeunes éternellement. Et aussi on a dans le livre une omniprésence de la musique gothique. Parce qu'en fait l'émergence du mouvement gothique va se faire surtout par la musique. Donc à l'époque, on parlait pas trop de gothique dans les années 80, mais plutôt de post-punk ou de new wave.
Ah oui, ok.
New wave. On va parler de gothique en fait. On va dire milieu années 80, avec le mouvement qui est né à Londres, à Soho.
Ça arrive tardivement quand même, le terme.
Ouais, c'est parce qu'en fait ils étaient plutôt ancrés dans le post-punk. Enfin, pour eux c'était des punks, des jeunes marginaux révoltés. Et en fait ça va plutôt se faire...
Il y a eu un besoin de se dissocier de ce mouvement-là quand même.
Voilà, c'est ça. Okay. Et ça va se créer à Londres. Enfin, souvent il y a eu beaucoup de révélations musicales en Angleterre, donc c'est pas très étonnant, mais... Donc à Soho, il y a une boîte de nuit qui s'appelle la Batcave. Bon, pas grand-chose à voir avec Batman, mais qui va être fréquentée par des grandes icônes du gothique, par exemple Nick Cave. Nick Cave, je pense que vous connaissez quand même parce que une de ses chansons Red Right Hand,
quel accent
en anglais, et une des BO de Peaky Blinders. Donc si vous avez regardé la série. Vous allez peut-être reconnaître cette chanson, etc. Après, beaucoup de groupes musicaux ont fréquenté ce bar, comme les Boz, The Cure, dont l'album qui s'appelle Pornographie va donner le mouvement à cette émergence. Il y a aussi le groupe Sisters of Mercy qui est extrêmement connu.
Et The Cure revient souvent dans l'œuvre.
Oui, tout à fait. Il y a The Cure qui revient, Boz aussi. D'ailleurs, il y a clairement une chanson qui est citée dans l'œuvre, qui est Ziggy Stardust de Boz, qui est une référence au personnage de Bowie. Donc on voit quand même une grande influence de Bowie dans la culture gothique, étrangement, alors que c'est un personnage qui est en couleur quand même. Donc voilà, il y a aussi ça va influencer effectivement le style vestimentaire qui va hériter du punk, mais aussi ce style androgyne. Qui va montrer en fait une affirmation d'une nouvelle identité où on dépasse les carcans de beauté habituels américaines ou britanniques, etc. Voilà, donc moi je pense qu'on peut parler de nos impressions sur le livre. Vas-y, commence, parce que j'ai bien parlé.
Je commencerai par dire que ce livre, c'est pas du tout un thème auquel j'accorde beaucoup d'affection. Je suis pas trop habituée à lire ce genre fantastique, surtout un roman qui parle de vampires. Et je pense aussi que c'est suite aux clichés qu'on en a tous. Vraiment des clichés et c'est, je pense que j'avais vraiment du mal à aborder cette lecture là et finalement j'ai été assez étonnée parce que j'ai trouvé que Poppy Z. Bright dans cette œuvre elle faisait résonner un acte de raison dans le sens où il y avait une déconstruction des stéréotypes sur les êtres surnaturels que sont les vampires et qu'elle levait le voile sur les clichés. Et notamment dans l'œuvre, on a un passage où Christian, donc le vieux vampire, en confrontation avec Wallace, donc un humain, va essayer de tuer Christian avec un crucifix en fer, en pensant le faire fondre, le faire brûler, etc. Et donc c'est pour ça que cette œuvre peut paraître certaines fois, malgré toute cette cruauté, violence, etc., assez comique. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a plu dans cette œuvre, cette déconstruction des mythes. On peut appeler ça une démystification, je pense.
Oui, tout à fait.
Et donc ça ancre aussi une forme de réalité à travers cette démystification des mœurs. Voilà, je sais pas si t'as pensé aussi qu'il y avait une
déconstruction. La scène du fameux Vade Retro Satanas de Wallace. Oui, alors l'œuvre. Alors déjà, peut-être comment on l'a choisie. Ça, je pense que c'est assez intéressant pourquoi on a choisi ce livre. C'est vrai qu'on essaie de travailler à chaque fois par thématique, tout ça. Et je voulais. Enfin, mon idée en tout cas, c'était de partir sur une thématique peut-être un peu plus fantastique, parce que Marianne a peut-être moins l'habitude que moi de lire
ce
genre d'œuvre. Voilà. Et j'avais découvert sur plein de forums, etc., de lectures, un nom qui revenait souvent, c'était Poppy Z. Bright. Et visiblement, c'était un auteur qui qui a eu un petit peu son moment de gloire dans les années 90, etc., avec ses œuvres très gothiques, ses nouvelles horrifiques, etc. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout en France. Et j'ai donc pris comme référence son premier roman, Âme perdue, qui parle de ces vampires d'une manière qui est très étonnante, qu'on n'a pas forcément l'habitude comparé à tous ces clichés qu'on a des vampires. Donc c'est vrai que je trouvais ça très intéressant, et en plus je trouve que comme notre émission s'appelle En Marge, je trouvais que ça s'ancrait parfaitement dans les thématiques de l'émission, dans le sens où c'est un auteur en marge, car c'est un auteur transgenre qui parle justement des complexités de l'identité, de l'affirmation de soi dans la plupart de ses romans, qui met en scène aussi des personnages homosexuels la plupart du temps, et aussi une génération qui est complètement
en marge,
qui est révoltée en fait contre une société très conformiste. Et aussi, c'est un livre qui est assez dur à trouver en français, parce que on l'a trouvé seulement d'occasion sur internet. Recyclivre,
oui.
On t'allais le dire, on n'est pas sponsorisé, mais c'est un site qui est quand même vachement bien pour trouver justement des éditions ou des livres qui sont pas vraiment accessibles, parce qu'il a pas été réédité. Donc voilà, peut-être que si vous voulez le lire, ça sera un peu plus
chance,
compliqué,
quoi.
Mais voilà.
Choisir cette œuvre.
Mais voilà, donc c'est un livre qui est triplement en marge sur tous les points. Et donc, finalement, ça a été une bonne découverte, parce que on en avait parlé avec Marianne, c'est un livre qui nous avait fait peur au début, par exemple par rapport aux noms. Les prénoms Nothing, les prénoms Ghost, les prénoms Spooky, etc. On s'est dit, c'est des prénoms qui font un peu cliché, fanfiction d'internet, etc., américaine des années 80.
Aussi que ça passe assez enfantin.
Oui, voilà.
Comme les séries ou les films qu'on a eu l'occasion de visionner quand on était plus jeune aussi.
Oui, voilà.
C'est les clichés, encore une fois.
Ouais, c'est clairement les préjugés qu'on a sur le fait que c'est des personnages qui ont des. Leurs prénoms, c'est des concepts. On s'est dit, mais c'est un peu enfantin, c'est. Moi, je dirais pas immature, c'est pas immature d'appeler les personnages par des concepts, mais c'est vrai qu'on retrouvait ça beaucoup dans les fanfictions ou dans les nouvelles écrites sur des forums, etc., sur internet, etc., pour nommer les personnages. C'était une mode et tout dans les années 80-90. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit énormément, et on s'est dit, est-ce que ça va être encore un roman écrit par un jeune qui sur les vampires extrêmement clichés, etc.
Mais peur que ça soit pas crédible aussi.
Oui, voilà,
et qu'on prenne pas ça au sérieux, et finalement ça contredit tout ce qu'on pensait.
Oui, en fait, faut se plonger un petit peu dans le roman, où c'est vrai que le début, j'ai été un petit peu c'était un peu compliqué à lire, parce que comme j'avais dit, c'est un roman à plusieurs voix, et on change plusieurs fois de point de vue assez rapidement, et c'est vrai qu'on peut se perdre en fait par rapport
Qui sont les personnages.
Oui, à qui sont les personnages.
Quelles relations ils entretiennent entre eux.
Exactement, on ne sait pas trop en fait où ça nous mène. Et des fois, c'est vrai qu'on peut se perdre avec
la masse d'informations.
Ouais, la masse d'informations. Parce qu'il y a quand même quatre arcs narratifs qui se déroulent en même temps. Et on trouve à chaque fois des liens, etc. Et on se dit, mais c'est quoi le rapport entre tous ces personnages, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on découvre le lien.
Bah, la trame se dévoile finalement au fil de l'intrigue aussi. Et c'est là qu'on devient de plus en plus accro à l'œuvre, à l'histoire. Et c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué, je pense, pour nous deux de se plonger dedans. Je faisais que dire à Nessa, mais c'est long quand même. L'intrigue est longue. Enfin, ça met du temps à arriver. Et vraiment, c'était là, perds pas espoir, on va réussir à accrocher le fil.
Non, oui, parce que vraiment, les 100 premières pages, on est complètement perdu. Enfin, c'est le cas de le dire avec le soul, mais on était un peu perdu avec toutes ces intrigues. Et avec aussi la psychologie des personnages qui était assez basique, dans le sens où Nothing, c'est le jeune ado de 15 ans qui est perturbé, etc. Mais en fait, on voit quand même qu'il y a une sorte de profondeur dès le début, dans le sens où il y a une... Je sais pas comment dire, mais il y a une sorte de figure tout de suite du vampire démantelé avec ce personnage où, en fait, la figure du vampire, c'est clairement associé au mal-être de l'adolescence, et je trouve que c'est très très bien traité dans le livre, où par exemple, il y a une scène Nothing se scarifie, mais il se scarifie pas forcément pour se faire du mal, mais pour se faire du bien, et on se rend compte, en fait, du paradoxe de la mutilation, mais aussi sur ça met en lien, en fait, avec sa nature de vampire qu'il ne connaît pas encore à ce moment-là, où il boit son propre sang pour se réconforter. Et je trouve que ça met en scène en fait le mal-être de l'adolescence d'une manière beaucoup plus subtile que juste l'ado révolté contre la vie, qui s'habille en noir, qui écoute du punk à longueur de journée, qui aime pas ses parents, qui sont pas vraiment ses parents.
Oui.
Mais voilà.
Mais c'est pour ça que c'était bien de lire cette œuvre en ayant une thématique, enfin un angle particulier. Et comme tu l'as dit, c'était vraiment l'enjeu de s'immerger dans une période de vie qui est édificatrice. Et les tourments qu'elle implique aussi, quand on voit le mal-être de Nothing, mais aussi, et c'est ce que j'ai trouvé hyper important, c'est à travers les différentes formes de concupiscence qu'il y avait dans l'œuvre, tous ces plaisirs. Donc on a des personnages qui cherchent l'ivresse, et c'est des plaisirs qui sont différents. Donc comme tu l'as dit, on a quand même pas mal de libertinage, si on peut appeler ça comme ça, du sang, de la drogue, de l'alcool. Donc l'alcool qui revient souvent, c'est donc la chartreuse.
Oui.
C'est quand même un alcool assez fort, donc je pense que ça n'a pas été choisi au hasard. Après, on a aussi les Lucky Strike, bref, des cigarettes, etc. Et donc toute l'œuvre repose sur une forme de synesthésie, donc, parce que tous les sens sont convoqués dans cette œuvre. Et comme si cette quête dans l'adolescence concerne l'entièreté de son corps, ça va du goût jusqu'au toucher. Mais on peut appeler ça peut-être une dépravation aussi, cette dépravation morale. Donc c'est une forme de dégradation du corps. Mais comme tu l'as dit, ça amène à un plaisir malgré tout ça. Et c'est comme un puits de plaisir. Et donc notamment quand... il explique, il me semble que c'était Zila qui est percée dans même le trio, il me semble, est percée sur beaucoup de parties du corps, parties génitales aussi, parties
nombriles,
etc. Et il y a aussi une forme d'automutilation, comme tu l'as dit, avec Nothing. Et on a l'impression que ça assouvit des pulsions aussi sanguinaires dès le début, qui annonce et qui amorce la suite et la fin de... Parce que Nothing, au début, ne sait pas que c'est un vampire.
Oui. Ouais. Il le découvre au fur et à mesure en rencontrant justement le trio de vampires. Et ce trio-là, au début, on les voit, je crois que c'est 50 ans, 30 ans auparavant de l'histoire... Non, 15 ans auparavant... du temps de Nothing, où il y a ce trio qui fréquente le bar de Christian, qui est lui-même un vampire mais qui le cache, et donc Twig, Molachai et Zila qui draguent des filles, qui boivent à outrance, etc. Et Zila va avoir une relation avec Jessie qui va tomber enceinte donc de Nothing. Et on voit que ces vampires-là, malgré leur acte cruel, etc., on voit après dans l'œuvre 15 ans plus tard qu'ils n'ont pas changé, ils n'ont pas grandi. Même quand Zilla va re-rencontrer Nothing, d'ailleurs un truc qui va être problématique après, parce que vous imaginez bien que si Zilla a une relation avec Jessie, que Jessie est la mère de Nothing et que Nothing rencontre Zilla après, techniquement c'est son père, sauf que lui il le sait pas. Et ouais. Ce qui va entraîner des problématiques, je vous laisse imaginer ce qui se passe entre eux.
Et quand on parlait de relations homosexuelles,
Voilà, Zilla, le père de Nothing, qui a pas changé, qui a pas grandi, etc. Et qui il le savait pas non plus, que c'était son fils, mais qui va être amené à avoir des relations avec lui.
Et c'est fatal aussi, c'est la relation fatale de cet homme, qu'il y a des choses auxquelles on peut pas échapper, finalement.
Ouais, c'est ça. Et ce que je voulais en venir, c'est que ces vampires-là, 15 ans après, 20 ans, 100 ans après, c'est des vampires qui restent éternellement immatures. On a l'impression que, en fait, c'est des enfants qui sont un petit peu irresponsables, mais bien sûr à des échelles extrêmes, parce qu'ils font des crimes absolument.
C'est surtout Twig et Moloshai, le duo infernal,
tout à fait.
Totalement terrifiant et déjanté. C'est un duo qui est.
Mais c'est ça que je trouvais assez paradoxal dans ces vampires qui sont décrits, c'est que en même temps c'est des êtres monstrueux, mais aussi on peut presque s'attacher parce qu'ils agissent presque comme des enfants par exemple la première fois qu'on voit Twig, je crois, il est en train de manger du chocolat.
Oui.
Donc c'est un truc qui
même Twig et Moloshai répètent tous les deux pratiquement toutes les mêmes actions tout le long de
comme les deux frères infernaux qui font des bêtises pour avoir un peu l'attention de Zilla, etc. En fait, il y a une sorte de des espèces d'enfants immatures, alors que d'habitude, le vampire, c'est un grand aristocrate, très charismatique, très cultivé, très calme, etc. Enfin, par exemple, un film que... Alors, je ne l'ai pas vu, mais je le connais de loin, parce qu'il est connu, c'est Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt. Encore Brad Pitt,
encore
Fight Club. Il revient dans Entretien avec un vampire, où c'est quelqu'un de très charismatique, donc qui est jeune, qui est beau, etc., mais qui est quand même qui a une tenue, tu vois. Il y a une espèce de... Alors qu'ici, il n'y a pas de tenue, justement.
Peut-être
pas
que c'est
tout.
Justement dans l'intérêt de déconstruire les mythes, c'est aussi peut-être pour revenir à la source de la bestialité de ce que sont les vampires, au lieu de leur donner, de les idéaliser peut-être dans une image particulière.
Oui, tout à fait. Mais oui, voilà. Enfin, c'est vrai que c'est un livre qui nous a marqué parce que avec ces figures de vampires qui sont en même temps, on s'attache aux personnages, enfin quelques-uns, peut-être pas tous. Bon, Steve, par exemple,
non,
pas trop.
Mais justement, on en a pas parlé encore, mais il y a vraiment des scènes de violence extrême dans cette œuvre. Il y a plein de violences différentes qui sont abordées, telles que le viol, l'inceste, des actes de pédophilie. C'est des scènes assez marquantes, quoi.
Oui.
Et c'est vrai qu'elles arrivent de manière très rapide et successive entre elles. Et donc, c'est pour ça que des fois, la lecture peut paraître un peu compliquée. Des fois, ça donne un peu l'impression de crash quand on devait faire des pauses entre les passages pour reprendre nos esprits, quoi.
Mais d'ailleurs, Marianne m'avait demandé comment ça se fait que t'as été autant choquée par Crash, mais que Âme perdue, ça va. Et je me suis vraiment posé la question. Et en fait, je pense que comme Âme perdue, c'est vraiment ancré dans un monde fantastique, même si c'est des lieux qui existent, ils fréquentent des
c'est
lieux,
les personnages qui sont fantastiques,
oui,
parce que les lieux sont tout à fait...
Oui, ils existent, la Nouvelle-Orléans, le Grand Carré, tout ça, c'est vraiment des lieux qui existent réellement. Et mais sauf que comme c'est des personnages complètement fantastiques, que la trame n'est pas vraiment vraisemblable, elle devient bien, etc., mais elle est, c'est pas une histoire qui...
C'est une histoire loufoque,
oui, voilà,
quand
c'est
même,
loufoque,
qui se porte hors de la réalité.
Et en fait, le fait que ça... Justement, comme c'est du fantastique, on peut peut-être plus accepter le fait que ce soit Enfin, on peut peut-être plus accepter l'immoralité en fait des personnages qui n'existent pas. Alors que dans Crash, c'est tellement ancré dans la réalité, on peut se dire mais ces gens-là qui ont un problème avec les accidents, peut-être que ça existe. Et c'est tellement ancré dans l'air du temps que on se dit mais c'est affreux parce que imagine je suis en train de conduire et il y a un fou qui me percute pour ces raisons-là. Alors que là, y a quand même moins de chances que je croise un vampire dans un bar. On va dire ça. Mais oui, donc je pense qu'on a une espèce de peut-être une plus grande distance avec ces personnages-là parce que on s'identifie quand même assez mal à eux. Enfin, c'est vrai que je me suis pas trop identifiée aux personnages dans le livre, mais j'avais quand même pas mal d'affection pour certains.
Mais je pense que le seul personnage auquel on peut vraiment s'identifier, c'est Nothing, parce que quand on en parlait, c'était quand même l'incarnation de ce qu'était l'adolescence et ce qu'on pouvait ressentir durant cette période-là.
Oui.
Et après, en général, quand on dit ce qui nous a plu dans l'œuvre, ce qui m'a plu aussi, bon, ce qui peut paraître peut-être un peu creepy et un petit peu aussi dérangeant, c'est le nom des personnages, quand on voit dans le résumé marqué Nothing, Lost Soul, Spooky, etc. Bon, ça nous immerge pas totalement, mais en fait, finalement, on peut se rendre compte que c'est réellement des peines qui sont liées à l'adolescence. Parce que, bon, Nothing, je vais pas vous l'apprendre, ça signifie rien, mais ça signifie aussi cette sensation de pas avoir d'identité, et enfin, du moins d'en chercher une, et c'est ce que fait Nothing tout le long. Quant à Spooky, bon, c'est comme son nom l'indique, c'est un personnage terrifiant, et dans le livre, il est nommé comme celui qui donne la chair de poule. C'est faire affront à ses peurs, y succomber aussi. Notamment Spooky, c'était avec passage avec les drogues, qui était vachement impactant.
Justement, dans ce passage, il y a Spooky qui est terrifiant, mais justement, dans ce passage où il prend la drogue, il est d'une douceur extrême. Oui. Et c'est ça, en fait. Où le livre il est toujours entre je sais pas deux extrêmes. En même temps les personnages peuvent être très doux, très séduisants et en même temps ils peuvent être affreux, cruels et
il y a des scènes d'horreur clairement sanguines, tout ce que tu veux et des scènes la scène de drogue quand il le pique à l'héroïne, c'est une scène même Nothing dit qu'il est quand même étonné de le trouver moins terrifiant parce que au début quand il le voit sur sa moto il est complètement terrifié, il se dit mais je rencontre encore sur sa route et finalement il s'aperçoit que c'est un personnage tout à fait doux, mais ce qui est horrible à dire c'est que c'est un personnage doux mais dans le malheur parce que il le confronte, c'est le premier qu'il confronte à la drogue finalement.
Oui. Après il prenait des substances mais peut-être pas aussi fortes que l'héroïne.
Parce qu'après, il enchaîne les drogues, suite à ça.
Ah oui, quand il rencontre
de l'opium.
Twig, Molasha et Zilla dans leur van, il se fait embarquer par les trois, parce qu'il faisait de l'autostop, je crois, Nothing. Oui, voilà. Et à ce moment-là, ils lui font boire, ils lui font prendre de la drogue et tout, parce qu'il espérait que Nothing ne tienne pas pour pouvoir le dévorer. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, c'est un peu leur piège pour manger des gens, c'est de les attirer dans le van pour les droguer.
Super.
Sauf que Nothing tient bien. Et justement, il n'est pas écœuré par le sang, parce que le test, justement, c'est de faire boire à leur victime une bouteille de rouge, mais en fait, c'est pas du vin, c'est du sang. Et Nothing, ça lui plaît parce que justement c'est un vampire.
Oui, mais il le sait pas, donc c'est aussi.
Donc ça, c'est presque un rite d'entrée dans un nouveau monde, dans une nouvelle identité qui va après affirmer justement avec ces trois vampires.
Et ce qui est bien, c'est que ça a annoncé juste après le fait que même quand il est avec Spooky, c'est la première fois où il va véritablement goûter au. Enfin, à part le sien, parce que quand il s'auto-mutile, etc., il suçait son propre sang. Alors qu'avec Spooky, le moment où justement il s'est piqué à l'héroïne, il a essayé de récolter le sang qui s'en déversait, du corps de Spooky. Quoi. Et c'est la première fois qu'on assiste à la véritable scène où il décide de lui-même de boire du sang humain, quoi.
Oui, c'est ça.
C'était hyper intéressant aussi de voir à quel moment ça allait se déclencher. Et juste après, dans le van, où c'était vraiment, voilà.
Oui, c'est un peu le twist en fait entre les deux mondes où il pensait simplement d'être quelqu'un de bizarre, etc. Avec le fait d'être attiré par le sang, etc. Mais au fur et à mesure du livre, on se rend compte que sa mère, même en n'étant pas une vampire, Jessie, était aussi attirée par par cette fascination avec les vampires, etc.
On le voit au début.
Oui. Où en fait, au-delà de son père Zilla qui est réellement un vampire, même la mère en étant qu'humaine, on voit qu'il y a une sorte
de fascination
où en fait, c'est quelle est vraiment la différence entre la cruauté humaine, la cruauté vampirique. Parce que au final, tous les personnages, autant les humains que les vampires, sont affreux. Par exemple, personnage de Steve qui est un humain qui est un des membres du groupe de Lost Soul avec Ghost, et un jeune qui est extrêmement perturbé et mal dans sa peau, notamment dans son couple, et qui va être amené à violer sa copine. Et d'ailleurs, la description elle est affreuse, hein. La scène est vraiment...
C'est ça quand on parle de scène trash.
Je pense que c'est une des scènes marquantes du livre. On se rend compte vraiment que le monstre, c'est peut-être pas forcément celui qu'on croit.
Et justement, ça pourrait être le message.
Ouais. Et justement, cette fille qui s'est faite violer, donc qui s'appelle Anne, va justement préférer la compagnie des vampires, parce que forcément ils ont une aura séduisante, etc. Mais aussi, elle va se sentir peut-être plus en sécurité avec ces monstres-là que avec l'humain qu'elle a fréquenté auparavant.
Qui sont les véritables monstres ? C'est ça que l'œuvre pose aussi comme question.
Ouais, en fait, il y a pas tellement de prise de position. C'est vrai que la moralité, elle est un petit peu anéantie en fait, parce que les personnages sont tellement gris dans leur vision de la moralité, etc., que c'est difficile. Il y a seulement Ghost, le membre principal de Lost Soul, qui est vraiment ancré dans une sorte de moralité, qui est très affectueux, qui est très compréhensif et tout.
C'est le seul personnage moral.
Oui, vraiment. C'est un peu le pilier central de l'intrigue, où il va déclencher en fait plein de liens avec les différentes scènes, parce qu'il a un pouvoir de prémonition qui est hérité par sa grand-mère, etc., qui est une sorcière. D'ailleurs, le côté vaudou du livre, de la magie, etc., qui commence à venir, vers le milieu, c'est une partie que je trouvais un peu...
exagérée.
Un peu exagérée pour justifier, en fait, les pouvoirs de Ghost, le fait que...
Tu préfères que ça reste subtil ?
Oui, enfin, je trouvais que c'était un moment qui était peut-être un peu long et qui servait pas trop l'intrigue, dans le sens où il y a eu beaucoup de liens avec le vaudou, le fait qu'il y a un grand héritage de magie, etc. Je dis je trouvais ça peut-être plus judicieux dans le fantastique de laisser cette part de mystère que justement de développer pendant peut-être 50 pages tout ce qui est en lien avec la sorcellerie, parce que je trouve que c'est pas tellement le principe central du gothique, la sorcellerie. C'est vrai qu'il peut avoir de la magie avec les vampires, etc., qui vivent éternellement jeunes, mais je trouve que quand même, c'est quand même des êtres qui sont très incarnés dans la réalité, qui se nourrissent de sang, etc. Ils sont très ancrés dans la chair. Et donc, justement, ça s'éloigne un peu de ce côté spirituel, etc. Que va incarner Ghost ?
C'est un côté trop onirique que t'as pas...
Ouais, c'est ça.
Ok. Mais quand tu parlais, je pense à ça de suite, mais quand on parlait du personnage de Ghost comme celui qui avait le plus de raison, de morale, etc. Oui, c'est vrai, parce que même les humains, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple les parents adoptifs de Nothing, ils s'écartent aussi de la morale, dans le sens où ils n'ont pas inculqué une éducation, c'est une éducation assez stricte, avec son beau-père aussi.
Oui,
quand on m'en souvient, c'était assez coriace.
Oui,
c'était de la violence également, et c'était... Pareil, c'est pour dire en fait finalement qui sont les véritables bêtes dans la société, et que c'est pas forcément. Enfin, dans ce livre, on en a discuté aussi, mais il y a un effacement total de l'aspect manichéen d'un livre avec les méchants et les gentils, parce que dans cette œuvre, il y a pas de méchants, il y a pas de gentils, c'est vraiment tout le monde, et finalement, à part Ghost, fait ressortir une forme de dangerosité, de violence, de.
Oui, en fait, le livre, on se rend compte qu'il n'y a vraiment aucun répit, parce que dans tous les points de vue, que ce soit humain, vampire, etc., il y a toujours une part sombre qui est révélé, mais de notre propre nature, en fait, de nos extrêmes et de notre, je sais pas, nos pulsions de meurtrières, etc., qui peuvent se manifester à tout moment par un moment de faiblesse. Et c'est vrai que c'est assez terrifiant, en fait, de voir que même les humains, en fait, ne sont pas...
ne suivent pas cette morale.
Oui, voilà. Je pense que c'est pour ça que c'était assez éprouvant à lire, parce qu'on avait très très peu de personnages auxquels se raccrocher au niveau moral, etc. Après, est-ce qu'il faut faire une lecture morale du livre? Je pense pas qu'on puisse en faire une.
Je pense qu'il faudrait pas, surtout.
Oui, voilà. On peut pas en faire une, parce que je pense que ça détruirait le principe du livre, qui en fait c'est un livre qui est fait pour provoquer tout simplement la société américaine, qui montre tout ce qui est puni par la loi ou qui est immoral au plus haut point, comme la pédophilie, l'inceste, le meurtre, le viol, etc., où tous les tabous sont exploités de manière très 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 crue, très explicite. Donc voilà, je pense que c'est aussi intéressant de voir un livre qui incarne vraiment la mentalité d'une époque et d'une génération qui est vraiment incomprise et qui veut justement se rebeller contre une société qui est trop qui les maîtrise trop, qui veut trop les enfermer. Enfin, dictatorial, je pense pas, mais extrême, oui, aussi extrême. D'une autre part.
Mais j'ai l'impression, par exemple, de la manière dont tu en parles, que ce livre a essentiellement une portée politique.
Oui, oui, je pense que oui, le mouvement gothique, etc., ça a apporté une. Est-ce que c'est politique ? Oui, je pense que toute crise identitaire, il y a quand même un sous-entendu politique, dans le sens où on veut se révolter contre un système, on veut se révolter contre une idéologie, etc. Donc sûrement, oui. Après, est-ce que c'est clairement défini ? Il y a peut-être un moment où Nosing, quand il se rend compte que Zilla est son père, etc., en fait, sa réaction est étonnante, parce qu'en même temps, il se rend compte que c'est mal, parce qu'il est ancré quand même dans la société, mais en même temps, il a envie d'aller au-delà de ça.
De s'affranchir.
Et il y a une description qui est assez intéressante, où il s'imagine en fait ses amis qui sont complètement ancrés dans la société, qui sont pas du tout dans cette démarche de révolution comme lui. Il se demande, oui, est-ce que par exemple cette fille-là, si elle couchait, est-ce que je pourrais imaginer cette fille-là coucher avec son père ? Est-ce que j'imaginerais-elle avoir une relation avec son père ou quoi, ou...
Son cousin.
Enfin voilà, il a une réflexion en fait où il projette en fait sa propre vision à travers son entourage. Il s'est dit, bah non, c'est pas possible. C'est pas possible que dans la société normale ça existe. Il y a que dans ce monde-là que ça peut exister et tout ça. Donc on voit vraiment que il n'y a pas une justification dans le sens où c'est bien ou c'est mal. C'est juste que dans le monde des vampires, en tant que monstre, en tant que créature surnaturelle, ça dépasse en fait les standards de la société. Donc on peut pas juger. C'est ça en fait que ça veut dire, je pense, dans la vision de Nosing.
Ok. Parce que je me suis demandé aussi si justement cette violence par rapport à la portée politique, etc., c'était pas... comment expliquer ? Cette violence exacerbée, si finalement c'était pas un moyen aussi d'expiation pour l'auteur sur l'expérience commune de l'adolescence et ses vices, en essayant aussi de questionner le lecteur, tu sais ?
Oui.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi une forme, une dimension intime de l'auteur à faire partager cette violence dans la conscience collective.
Je pense, comme l'auteur est transgenre, je pense qu'il y a une volonté en fait de mettre en scène des personnages, je pense pas qu'il lui ressemble, mais des personnages qui partagent aussi cette volonté d'affirmer une identité qui n'existe pas encore, parce que c'est dans les années 80-90, c'était pas quelque chose qui était reconnu ou pleinement respecté, accepté, etc., dans la société. Voilà, c'était des personnes qui étaient en marge. Bon, c'est encore des personnes qui sont en marge dans notre société aussi, dans certains aspects, mais même s'il y a une...
Peut-être moins, mais
oui,
il y a toujours...
Mais c'est quand même des gens où on voit que, voilà, il y a une sorte d'écart, de gouffre, en fait, entre deux sortes même de cultures, en fait. La culture queer, avec cette littérature-là qui veut apporter en fait des personnages homosexuels, androgynes, faire une sorte, je sais pas, de représentation de gens qui ne sont pas censés exister dans cette société conformiste, mais qui existent quand même, et donc ça pose des problématiques entre les gens conformistes et ces gens en marge qui bousculent en fait les idéologies d'une société existante, croyante, tout ce que tu veux. Et je pense que l'auteur voulait vraiment confronter en fait cette injustice en fait entre le fait que d'accord, vous voulez montrer que le mal et le bien, il n'y a pas de moyen de montrer qu'il peut avoir un peu de nuance en fait là-dedans, que ces deux sociétés ne peuvent pas se mélanger. Je vais montrer un livre qui justement oblige ces sociétés à se rencontrer, à se combattre et peut-être même à s'accepter à la fin.
Finalement, ce qui me fait rire, c'est qu'on choisit quand même des œuvres qui confortent l'idée d'une quête identitaire, comme on avait vu avec Fight Club aussi. C'est aussi l'idée de la violence et la quête identitaire par la violence. Et là, ce qui s'est passé dans ce livre-là, c'est, pas que par rapport à la violence, mais c'est vraiment une recherche de l'identité.
Oui, c'est vrai.
C'est un thème, finalement, qui revient souvent dans la littérature.
Mais comme tu l'as dit, là, en plus, ça parle surtout de l'adolescence de Nothing, donc je pense que c'est l'adolescence, c'est souvent la période où on se cherche. Voilà, je pense que c'est un postulat assez, assez courant, mais c'est le cœur même du livre. Mais après, est-ce que au final les auteurs, tout ça, du gothique comme Edgar Allan Poe, Baudelaire, ils voulaient pas aussi affirmer une sorte d'identité? Je pense que justement la plupart des artistes, c'est des gens en marge, c'est la recherche du moi. Après, voilà, il y a plein de gens qui ont fait des romans sur la quête identitaire sans aller dans de tels extrêmes. Hein. Par exemple, Proust, toute son œuvre, c'est recherche du temps perdu, c'est une recherche de soi, etc., qui est très longue, très
subtile.
C'est
une investigation longue aussi.
Oui, qui parle aussi beaucoup de la société mondaine, etc., qui se moque, etc., de ces gens très conformistes, très, très ancrés dans leurs idées, etc. Et c'est peut-être pas si différent que ça, mais je pense que
oui, peut-être cet intérêt pour cette quête-là.
Oui. Après, je pense que c'est un livre qui montre une réactualisation du mythe du vampire qui est assez, qui peut peut-être nous parler aujourd'hui, parce que c'est un livre qui date des années 90 et qui parle d'une génération des années 80. Mais au final, est-ce qu'on ne peut pas retrouver ça dans des œuvres actuelles? Ce qu'on se demandait.
Alors on connaît plein d'œuvres quand même. Je pense que tout le monde connaît ici, mais Twilight. Twilight.
Moi, j'ai pas vu. J'ai pas du tout vu. J'ai pas.
Il faut
vu
que tu t'y mettes, mais ça.
D'accord.
Non, c'est vraiment c'est vrai que quand on parle d'adolescence, c'est des films que j'ai vus quand j'étais adolescente, quoi. Et c'est pour ça aussi que les clichés se sont forgés de cette manière-là. Parce que vu que c'est une période très édificatrice, etc., j'ai vu ce film-là, je me suis dit, alors le mythe du vampire, c'est il brille au soleil, il a la peau luisante et brillante, il meurt avec un pieu dans le cœur. Enfin, c'est quand même, t'en connais d'autres, toi, non, des œuvres.
Pour moi, la figure gothique, après, je sais pas si j'ai raison en disant ça, mais peut-être dans mes clichés de la représentation gothique, mais pour moi, la série, le film, les films qui m'ont montré un petit peu cette notion de marginalité, pour moi, c'était La Famille Addams. Je sais pas s'ils sont vraiment dans le gothique, parce qu'on dit que vraiment quelqu'un est gothique quand il écoute vraiment de la musique gothique, etc. C'est comme les métalleux, c'est pas forcément ceux qui portent des grosses chaînes, des docks,
c'est un ensemble
déchirés, ou des battle jackets. C'est des gens qui écoutent du métal. Je dirais que La Famille Addams, c'est peut-être la figure pour moi qui est très représentative en fait de cette culture très marginale, qui est complètement à l'encontre de la société américaine, mais qui est une culture qui a quand même sa propre moralité, etc. Parce que ce qui est drôle, en fait, dans La Famille Addams, c'est que c'est une famille qui Il y a la mercredi qui tue, qui s'amuse à vouloir tuer son frère. Ils sont extrêmement morbides. Ils vivent au milieu d'un cimetière avec tous les membres de la famille qui sont morts. Enfin, ils sont très très dans l'étrange. Mais c'est une société qui, enfin, c'est une famille qui s'aime énormément, qui ont un lien familial, enfin qui ont une union extraordinaire, qui s'entendent très bien. Le couple, comment il s'appelle
Je l'ai pas.
Oh, c'est honteux. Morticia et
Gomez.
Voilà, c'est bon. Morticia et Gomez, leur couple, il est iconique dans le sens où ils s'aiment éperdument. Et
c'est des personnages totalement différents en plus.
Ouais, totalement. Et en comparaison avec par exemple les films, etc., où on voit des familles américaines standards qui ont pas du tout cette notion de la famille ou qui ont des gros travers, etc., qui pose des problématiques. En fait, on se dit, mais c'est quoi en fait l'idéal, qu'est-ce qui est bien en fait dans tout ça, etc. Ça bouscule un petit peu nos idéologies sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui fait qu'une famille est fonctionnelle, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette remise en question en montrant quelque chose qui est complètement différent, à l'opposé, et qui peut-être même va à l'encontre de nos morales, mais qui montre aussi une autre possibilité de vivre, d'appréhender le monde.
Ce qui est intéressant avec La Famille Adams, c'est que c'est aussi une histoire qui a été réactualisée avec la série Mercredi.
Oui, c'est vrai.
Et ça fait un peu comme notre œuvre, c'est une réactualisation aussi des mythes, quoi.
Mais c'est vrai que dans Mercredi, la série sur Netflix, il y a vraiment cette... on pousse quand même le gothique et le fantastique au point. Peut-être même plus dans les films où ici ils sont dans une école avec des sirènes, des loups-garous. Voilà, il y a aussi Edgar Allan Poe avec quand ils vont dans la base secrète, la société secrète de Nevermore, où pour entrer dans la société, ils sont face à un corbeau, donc le corbeau de Edgar Allan Poe, et il faut qu'il claque trois fois des doigts. Ça rappelle Mercredi.
Oui, c'est des références.
Le générique, mais voilà. Mais oui, c'est vrai que ça rentre dans cette marginalité où ici, c'est une école qui...
mais qui est complètement en marge.
Qui est que pour les
hors
marginaux.
Hors de la société humaine.
Où ils appellent les humains les normies, et les freaks, les bizarres. Voilà. Donc c'est vrai que c'est souvent réactualisé dans les séries un petit peu adolescentes, etc., mais peut-être d'une manière beaucoup plus nuancée,
nuancée, c'est le mot,
peut-être pas aussi extrême que Âme perdue, parce que je pense que c'est pas adapté à un public de 15-16 ans, très honnêtement.
Oui, c'est vrai. J'avoue.
Les mythes du vampire, c'est que ça s'est beaucoup réactualisé. Après, moi, je voulais parler un petit peu des vampires dans les jeux vidéo, parce que je trouve que c'est important d'en parler, parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo, dans les années 80, il y avait Castlevania, où ça met en scène des chasseurs de vampires, où justement dans cette équipe de chasseurs de vampires, il y a un demi-vampire qui s'appelle Alucard, qui est un petit peu la représentation de cet entre-deux, en fait, de peut-être une possibilité d'allier ce monde surnaturel avec le monde humain en chassant l'extrémité de cette culture en marge, mais en essayant aussi de l'associer avec l'extrémité de cette société conformiste qui a peur de ce surnaturel. Et pour parler de jeux un peu plus actuels, enfin, si on peut dire que c'est actuel, je voulais parler de Baldur's Gate 3, qui met en scène aussi des... toi tu ne connais pas, mais bon, si vous connaissez, c'est sur le principe de Donjons et Dragons, et dans Donjons et Dragons, voilà, il y a plusieurs monstres d'espèces différentes, humanoïdes, vous avez des elfes, vous avez des orques, des nains, etc. Et si vous êtes un petit peu au courant de Donjons et Dragons, vous avez sûrement entendu parler de la sortie de Baldur's Gate 3, qui est un jeu vidéo d'RPG, etc. Vous incarnez un personnage et vous êtes dans une équipe d'aventuriers, et parmi ces aventuriers, là, vous rencontrez un vampire qui s'appelle Astarion, et je trouve qu'il incarne parfaitement bien la quête de morale et d'identité, parce que c'est pas vraiment un vampire, c'est un rejeton de vampire. Et le fait que ce soit un rejeton de vampire, ça fait qu'il est assoiffé de sang, que c'est quelqu'un de un peu cruel en soi, parce que il est tout le temps affamé, etc. Il est obligé de tuer pour satisfaire sa faim. Mais aussi, ça, il est obligé de vivre dans l'ombre. Mais surtout, il est obligé de vivre éternellement, mais sous le joug d'un vrai vampire. Et en fait, il y a une mission pour le libérer d'une espèce de rite qui pourrait le rendre un vrai vampire. Et la bonne solution, parce que vous avez plusieurs choix dans le jeu, vous pouvez faire plein de choix différents, parce que c'est un jeu de rôle comme Donjons et Dragons, et vous êtes amené à développer vos personnages comme bon vous semble. Hein. Si vous voulez incarner un méchant, vous pouvez faire des actes cruels. Et la bonne solution en fait pour sauver ce vampire Astarion, c'est justement de l'empêcher de faire ce rite d'ascension vers le stade ultime du vampire, qui va le rendre extrêmement cruel, assoiffé de sang, et où il va perdre complètement son identité, sa personnalité, etc., ou ça va juste devenir quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir, de domination, etc. Et je trouve que c'est intéressant en fait de voir que on joue toujours en fait sur ces deux penchants de la morale, entre chercher ce qui correspondrait le plus à son identité, dans le sens où pour garder son intégrité, sa personnalité, tout ça, il faut justement qu'il se détache en fait de cette monstruosité qui le bouscule et qui justement le soumet à un état d'asservissement à l'égard d'un autre vampire. Voilà.
On en apprend des choses dans cette émission.
Ça, c'est ma petite culture geek, etc. Voilà. J'avais besoin d'en parler. Mais après, oui, c'est... Voilà, les figures des vampires, c'est quelque chose que... Peut-être qui est sympa de voir revenir. Voilà,
oui,
on l'a vu avec...
De déconstruire l'image. Mercredi,
déconstruire l'image. Pas forcément d'accepter le fait de se faire manger par un vampire. Oui, ça c'est clair, mais je trouve que c'est quand même justement un...
C'est d'accepter notre vision de notre auteur, de ce que pourrait être la modernité du mythe, quoi.
Oui, voilà, et de voir que c'est peut-être un personnage un peu plus complexe qu'on peut penser à travers nos clichés du vampire, de ce qu'on a pu lire, voir, etc., dans des films, dans des poèmes avec Edgar Allan Poe, etc., comme on l'a dit. Et peut-être, ça nous a un petit peu fait grandir sur nos préjugés, etc., sur des livres qui peuvent sembler un petit peu... clichés, etc. Et finalement,
mais il a fallu être curieux sur d'autres thèmes, quoi.
Oui, bien sûr. Il faut toujours être curieux et laisser sa chance des œuvres qui peuvent nous sembler en premier rapport
médiocre,
bof. Voilà. Donc ça a été une très très bonne surprise pour nous. Âme perdue de Poppy Zedbright, qui a permis de, même dans les années 90, de réactualiser ce mythe du vampire comme étant un personnage beaucoup plus gris qu'on peut le croire. Mais je parle pas forcément du teint là pour le coup, mais plutôt pour sa morale. Et
permet des blagues.
Mais je trouvais une lecture très intéressante et qui s'intègre parfaitement dans notre émission En Marge. Voilà.
Merci de nous avoir écoutés en tout cas. Merci Nessa pour cette belle discussion.
Super, merci beaucoup.